une prédication dans un contexte compliqué. Mais le thème... Alors, je vais lancer la vidéo. Ça passe pas. Voilà. Le thème, la parole de Dieu. C'est vrai que dans un monde qui tremble, quoi de plus important pour nous de nous appuyer sur ce fondement que Jésus nous a donné, sa parole. Et ce matin, j'étais très content de voir que notre Église remet régulièrement aux enfants qui arrivent dans notre communauté une Bible pour qu'ils puissent la lire. Voilà, donc ça m'a fait très plaisir ce matin de voir cet événement. Ce verset tiré de Romains 10, verset 17, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. » C'est un verset qu'on devrait tous apprendre par cœur, déjà parce qu'il n'est pas très long, facile à retenir. Et surtout, ça nous permettrait de ne pas oublier de le mettre en pratique. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Mais on pourrait se poser la question, qu'est-ce que la parole ? La parole, dans le premier chapitre de l'évangile de Jean, c'est Jésus. Jésus, la parole qui a été faite chair, qui a habité parmi nous. La parole, c'est aussi l'Écriture, la Bible, qui a traversé les siècles pour arriver entre nos mains. Et j'ai souvent lu des livres sur l'histoire de la parole à travers les siècles, mais c'est fascinant de voir comment Dieu a préservé cette parole pour qu'elle nous arrive jusqu'à aujourd'hui. Et c'est cette parole qui peut nous nourrir spirituellement au quotidien. Mais encore faut-il l'ouvrir. Sans cette nourriture quotidienne, nous le savons, nos besoins ne seront pas satisfaits. Notre foi faiblira et nous risquerons de nous détourner de Jésus. Il est le seul par qui nous pouvons être sauvés. Alors, vraiment, je ne cesserai de vous répéter pendant cette prédication, tournez-vous vers la parole, ouvrez-la et surtout mettez-la en pratique. Jésus nous a donné l'exemple en son temps. Lui-même lisait les Écritures. Alors, c'est vrai qu'il ne disposait pas lui-même dans sa poche du Nouveau Testament ou de l'Ancien Testament, ça n'existait pas. Mais à la synagogue, il prenait ou on lui présentait le rouleau des Écrits et il pouvait lire les Écritures. Et c'est ainsi qu'un jour, à Nazareth, à la synagogue, il a eu entre les mains les écrits sacrés juifs, et en particulier le prophète Ésaïe. Il a pu lire dans Ésaïe, alors c'est Luc qui nous rapporte cela au chapitre 4, il a pu lire une prophétie de Ésaïe qui disait « L'Esprit du Seigneur repose sur moi, parce qu'il m'a désigné par l'onction, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés, et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. » Et, après avoir lu ce texte, Jésus a tout simplement dit à son auditoire, « Cette prophétie vient de se réaliser. » Quelle bonne nouvelle ! Le Messie, tout le monde l'attendait, le Sauveur tant attendu est enfin parmi nous. C'est vrai que si aujourd'hui en Ukraine, on pouvait avoir ce Sauveur qui délivre de la guerre, qui délivre les captifs, etc., on pourrait se réjouir. Mais nous l'avons, ce Sauveur, malgré tout. Croyons que, quoi qu'il se passe, Dieu est souverain. Et donc, Jésus, il s'appuyait sur les écrits, sur la parole, pour, d'une part, bien connaître la volonté de son Père, mais aussi pour annoncer au peuple la bonne nouvelle. Et de la même façon, régulièrement, le prédicateur qui se tient ici chaque dimanche, c'est son rôle. Et en s'appuyant sur la parole de Dieu, sur la Bible, dimanche après dimanche, eh bien, nous prêchons. Dieu aime tous les hommes. Nous acceptons, nous prêchons aussi que Jésus a accepté de mourir sur la croix à notre place. Il a porté notre péché. Mais Dieu nous voit juste à travers le sang de Jésus. Et enfin, Dieu nous donne la vie éternelle. Ce sont des messages que nous prêchons régulièrement. Quelle grâce! Par la foi en Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Mais une question se pose. Je le disais à l'instant, la parole, c'est l'Écriture. Mais la réciproque n'est pas automatique. L'Écriture n'est pas forcément la parole. L'Écriture devient parole vivante lorsque le Saint-Esprit touche notre cœur. Et cela se produit au moment où nous lisons la Bible. Mais si nous lisons les Écritures uniquement de façon intellectuelle, elle ne produira aucun effet dans notre vie et sur notre foi. À titre d'exemple, sans faire de polémique, voyez les témoins de Jéhovah, ils étudient les Écritures, mais ils ne croient pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Voyez, leur lecture ne leur permet pas d'avoir foi en Jésus, Fils de Dieu. Pour que l'Écriture devienne parole de Dieu, il faut que l'Esprit de Jésus nous illumine et nous permette de la comprendre, de l'accepter dans notre cœur par la foi et non par notre intelligence. Ceci étant dit, nous vivons dans un monde scientifique. Nos proches, nos contemporains sont influencés par la pensée scientifique. Alors, j'aimerais faire cette démarche d'essayer d'approcher l'Écriture par une démarche également scientifique, par notre intelligence humaine. Alors, je ne le ferai pas en opposition à la lecture par la foi, mais en complémentarité. Et cela nous permettra de nous mettre chacun de nous face à l'Écriture avec cette double approche, par la foi ou par une démarche scientifique. Il me paraît donc juste de me poser cette question. Les Écritures sont-elles authentiques? Quand ont-elles été écrites? Et les récits qu'elles rapportent sont-ils réels? Je ne sais pas si vous vous êtes posé déjà cette question, ou si vous lisez la Bible et puis vous ne vous posez même pas la question. Je pense quand même qu'on est dans un monde où ça vaut la peine d'aller un peu plus loin, de réfléchir. Alors, je vais vous faire un petit peu sous forme d'enquête, essayer de comprendre et de vous amener à comprendre comment ce message est arrivé jusqu'à nous. En particulier, de comprendre s'il n'a pas été déformé. Vous connaissez ce petit jeu enfantin, le téléphone arabe. On se met à 4, 5, 6 personnes en ligne. Il y en a une personne qui dit à son voisin une phrase, qui la répète à son voisin en chuchotant, bien sûr, personne, les autres n'entendent pas. Et puis, à la fin, la dernière personne dit ce qu'elle a entendu, et en général, ça n'a plus rien à voir avec ce que la première personne avait dit. Alors, la Bible, qui raconte des histoires qui se sont passées il y a 3000 ou 2000 ans, mais est-ce que le message n'a pas été déformé? Alors, pour mener cette enquête, il faut quand même quelques bases d'histoire, puisque là, on parle d'une histoire qui remonte à 2000, 3000 ans. Au XIXe siècle, les théologiens libéraux prétendaient que les écrits bibliques avaient été écrits très tardivement, au Moyen Âge, et que tous ces écrits devaient être interprétés, en fait, comme des récits littéraires, des allégories, et non pas comme des histoires réelles, qui se serait déroulé avec des vrais personnages comme Abraham, Moïse, David, Jésus. Mais il faudrait plutôt les comprendre comme des fables, comme les fables de La Fontaine, qui sont là pour nous apprendre la morale, pour nous faire comprendre la religion, mais qui n'ont pas de fondement historique. Et c'était compliqué pour les théologiens évangéliques qui croyaient vraiment en ce qu'ils lisaient d'argumenter, puisque vous le savez, hein, c'était dans la période de la philosophie du siècle des Lumières, et cette influence était tellement forte que les théologiens évangéliques avaient peu d'arguments pour les contredire. Néanmoins, cela les a poussés à entreprendre des recherches archéologiques, donc basées sur la science, et cela dans tous les pays du Proche-Orient ancien, donc en Palestine, en Israël, mais jusqu'en Irak et dans tout ce secteur. Et il faut le savoir que les recherches se poursuivent très activement jusqu'à aujourd'hui avec des méthodes d'autant plus modernes, avec les drones, les satellites, les caméras infrarouges, etc. On peut vraiment aujourd'hui faire encore des découvertes passionnantes. Et ces scientifiques archéologues ont fait des découvertes qui ont donc balayé la théorie de ces théologiens libéraux. Et je ne vais pas revenir sur toutes les preuves scientifiques, mais je vais vous en présenter trois qui prouvent qu'il n'y a aujourd'hui plus de contestation possible sur l'existence de David et de sa dynastie, sur le prophète Ésaïe et sur Jésus, pour ne citer que ces exemples. Alors, vous avez ici une pierre en basalte qui aurait été gravée au 9e siècle avant Jésus-Christ. L'année exacte n'est pas connue, effectivement. Pour rappel, David a fondé sa dynastie au 10e siècle, soit à environ 100 ans avant que cette pierre n'ait été gravée. Cette pierre a été découverte il y a peu de temps, finalement, en 1993-1994. Et donc, on l'appelle inscription de Tel Dan, puisque c'est dans le nord d'Israël, aux sources du Jourdain, à Dan, que cette pierre a été trouvée. Cette pierre n'est pas complète, donc l'extrait qu'on peut y lire, voilà ce qu'il dit. « Mon père succomba, il alla vers ses pères, et le roi d'Israël pénétra dans la terre de mon père. Et Hadad me fit moi-même roi, et Hadad alla devant moi, et je partis. » Vous voyez, il y a des trous, ouais. C'est un peu comme le téléphone arabe, ce n'est pas complet, mais néanmoins, il y a quand même des informations intéressantes. « Je tuai deux rois puissants qui avaient sous leurs ordres 2000 chariots et 2000 cavaliers. Je tuai Joram, fils d'Ahab, roi d'Israël, et je tuai Ahaziahu, fils de Joram, roi de la maison de David. » Ce texte, gravé sur la pierre, fait écho dans nos Bibles au deuxième livre des rois, les chapitres 8 et 9. Dans ce passage de la Bible, c'est le moment où Hadad est roi de Syrie, hein, donc on en parle sur cette stèle. Joram, le fils d'Akab, est roi d'Israël. Joram, fils de Josaphat, roi de Juda. Et Ahazia, fils de Joram, est le roi de la maison de David, autrement dit, de la dynastie de David. Et au chapitre 9 du deuxième livre des rois, c'est le nouveau roi Jéhu qui tue ces rois d'Israël, et donc ce serait lui qui aurait gravé ces mots. On voit que ces parallèles entre les récits bibliques et les récits archéologiques, les écrits archéologiques, sont des preuves incontestables de l'historicité de la Bible. Personne n'aurait pu inventer au Moyen-Âge les noms de ces rois qui ont vécu il y a pratiquement 3000 ans. Pour que ça coïncide, c'est que la Bible a été écrite et que ce qui a été écrit dans la Bible était une réalité incontestable. Et cette découverte, donc faite en 93-94, c'est à ce jour la plus ancienne découverte qui prouve l'existence de la dynastie de David et donc l'existence réelle de David. Une autre preuve, donc le prophète Ésaïe a vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ, en même temps que Ézéchias. Ils étaient contemporains. Et Ézéchias a creusé un tunnel pour capter l'eau des montagnes et la ramener dans l'intérieur de la ville de Jérusalem. Et dans ce tunnel, il y a une inscription qui a été datée scientifiquement de l'an 700 avant Jésus-Christ. Donc, ça confirme vraiment la période du creusement de ce tunnel. Et ce tunnel, voilà comment il a été creusé. C'est reporté dans le livre des rois. Et là, on a la traduction du texte. Voici l'histoire du creusement. Pendant que les tailleurs de la roche brandissaient leurs outils chacun en face de ses compagnons, un moment où manquaient trois coudées, environ 1,50 m, pour la perforation, la voix d'un homme fut entendue, demandant à son compagnon pourquoi il y avait une crevasse à la droite. Le jour de la perforation, les mineurs frappèrent chacun pour rencontrer son compagnon, et les eaux s'écoulèrent de la source jusqu'à la piscine de Siloé, je le précise, environ 1200 coudées. Donc c'était un tunnel qui faisait 533 mètres de long, et la roche était 100 coudées, soit 50 mètres au-dessus d'eux. Voilà. Donc cette inscription a été datée de 700 ans avant Jésus-Christ. Alors, cette inscription confirme l'historicité et la réalité du roi Ézéchias, qui était contemporain de Ésaïe. Si vous vous souvenez, en lisant Ésaïe, les chapitres 36 à 39, Ésaïe rapporte comment le roi Ézéchias a lutté contre l'invasion du roi d'Assyrie. Je vous encourage à approfondir et à lire ces textes. Pourquoi j'insiste sur l'historicité de Ésaïe ? C'est parce que Ésaïe, c'est le prophète que Jésus lisait dans la synagogue de Nazareth. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est important d'avoir une trace de la présence, de la véracité de Ésaïe 800 ans avant Jésus-Christ. Même Jésus n'a pas toujours été admis comme personnage historique. Au XIXe siècle, c'était contesté. Et un historien juif, Flavius Joseph, a écrit les guerres de, je ne sais plus le titre de son livre, peu importe. Il vivait à Rome, et voilà ce qu'il a écrit au 1er siècle, donc peu d'années après la mort de Jésus. En ce temps-là, paraît Jésus, un homme sage, c'était un faiseur de prodiges, un maître des gens qui recevait avec joie la vérité. Il entraîna beaucoup de Judéens et aussi beaucoup de Grecs. Et quand Pilate, sur la dénonciation des premiers parmi nous, le condamna à la croix, ceux qu'il avait aimés précédemment ne cessèrent pas. Jusqu'à maintenant encore, le groupe des chrétiens n'a pas disparu. Ce Flavius Joseph n'était pas devenu chrétien, mais il rappelle que Jésus a bien vécu sur terre et qu'il a été crucifié par Pilate. Ces trois preuves scientifique, donc David qui a bien fondé la dynastie des rois de Juda au Xe siècle avant Jésus-Christ, Ésaïe qui a vécu au VIIIe siècle, et Jésus au Ier siècle, crucifié par Pilate. Ce sont donc des réalités historiques et personne à ce jour ne peut les contredire, à moins d'être vraiment de mauvaise foi. Et ces trois preuves suffisent à balayer tous les arguments que les théologiens libéraux du XIXe siècle qui contestaient l'historicité des récits bibliques, vraiment, c'est plus possible à ce jour de les contester. Alors, je reviens maintenant à Jésus qui lisait dans le prophète Ésaïe. Ésaïe, comme on vient de le voir, qui a bien vécu au VIIIe siècle, donc plus précisément entre 766 et 701, une copie intégrale écrite en hébreu ancien du rouleau de ses prophéties a été découverte à Qumran en 1947. Donc c'est assez récent. Enfin, aujourd'hui, ça fait déjà plus d'un demi-siècle. Mais à l'échelle de la vie de l'Église, c'est assez récent. Et ce document a été scientifiquement daté du deuxième ou peut-être du 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est important de savoir que quand Jésus lit dans le prophète Ésaïe, ce genre de rouleau, oui, existait déjà. C'est des documents, des copies, bien sûr, ce n'était pas des originaux. L'original du livre du prophète Ésaïe n'existe pas à ce jour, mais on a une copie qui date du 2e ou du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et c'est dans ce genre de document. C'était des rouleaux, hein. Je ne sais pas si vous avez vu à la synagogue. Les gens lisaient dans des rouleaux. Et c'est ce document que Jésus a pu lire lorsqu'il était dans la synagogue de Nazareth. Et c'est aussi ces documents qui servent aujourd'hui aux traducteurs de la Bible pour ne pas faire des traductions à partir de textes qui auraient pu être un petit peu transformés par le temps. Donc on utilise toujours, bien entendu, les documents les plus anciens. Et à ce jour, nous avons la chance, hein, on a la Nouvelle Seconde, on a la Colombe, on a la Semeur, on a la Parole de Vie, on a toutes ces traductions modernes qui sont accessibles à notre niveau grâce à l'utilisation et à la traduction de ces documents anciens. Alors, si je reprends le texte que nous avons lu tout à l'heure, que Jésus a lu dans Ésaïe, j'aimerais comparer deux textes, celui du rouleau d'Ésaïe et celui qui nous est arrivé à travers l'évangile de Luc. L'évangile de Luc a été écrit en grec. Donc déjà là, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Vous êtes encore là ? Alors, là, j'ai mis à l'affichage, j'ai mis les deux versions. À gauche, c'est le texte en grec, traduit bien sûr en français de Luc, et à droite, c'est le texte en hébreu ancien, traduit en français. Et si on compare, moi je suis ébahi de voir que les textes sont quasiment identiques. D'un côté, l'Esprit du Seigneur est sur moi, de l'autre, l'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi. C'est la même chose. Parce qu'il m'a consacré par onction, parce que l'Éternel m'a consacré par onction. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, c'est la même chose. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. De l'autre côté, c'est un peu plus court, mais ça veut dire la même chose, hein. Donc, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Et enfin, pour proclamer une année de grâce du Seigneur, là, des deux côtés, c'est exactement la même chose. Pour moi, la similitude de ces deux textes, après un parcours de quelques milliers d'années, dans deux cultures différentes, le texte d'Ésaïe est resté en hébreu ancien, le texte de Luc a été écrit en grec, et je trouve remarquable que ces deux cheminements parallèles aboutissent aujourd'hui dans nos traductions de la Bible à des textes quasiment identiques. Les différences ne modifient pas le sens du texte. Alors, un petit schéma pour illustrer cela. Ça, c'est la Bible le Codex Sinaiticus, c'est le plus ancien manuscrit en grec qui date du 4e siècle, qui a été trouvé dans un monastère au Sinaï. Ce petit schéma montre le cheminement de ces deux textes. Le texte d'Ésaïe qui a été écrit en hébreu ancien, hein, donc au 8e siècle avant Jésus-Christ, et qui est conservé et qu'on a aujourd'hui sous forme d'une copie qui date du 2e siècle, à partir de laquelle, comme on l'a retrouvé en 1947 à Qumran, on peut réaliser les traductions modernes de la Bible. Et le texte de Luc, qui a été écrit en grec, une copie du 4e siècle a été conservée jusqu'à aujourd'hui. Elle a été découverte dans la bibliothèque de ce monastère au 19e siècle, en 1844 environ. Et ce document a permis, par exemple, à Louis II de faire la première traduction de sa Bible en 1880. Et les traductions modernes, que ce soit la Nouvelle Seconde et les autres Bibles, voilà, il y a plusieurs éditions, 1878 pour la Colombe, 1999 pour la Semeur et 2007 pour la Seconde 21. Moi, personnellement, je remercie Dieu pour tous ces scientifiques, ces experts qui ont fait l'exégèse sur les documents, qui ont su discerner quels étaient les bons manuscrits, les plus anciens, pour faire ce travail, cette traduction. C'est un travail de longue haleine. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir la Bible en français et dans toutes les langues du monde, quasiment. Et comme néophyte, je suis aussi rassuré de voir que un texte qui a suivi deux cheminements différents, finalement, n'a pas été altéré. Donc moi, ça me rassure. Ça me permet de lire avec confiance la Bible comme la parole de Dieu. Et je m'appuie sur cela. La Bible, c'est vraiment la parole de Dieu. Alors, j'aimerais, en titre de conclusion, vous proposer ce verset de 2 Corinthiens au chapitre 2, verset 5. « Votre foi a été fondée, non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. » Nous le savons, la sagesse de l'Esprit de Dieu est largement supérieure à la sagesse humaine. Certes, l'archéologie est une sagesse humaine. Elle permet de reconstituer le passé, et c'est passionnant. En tout cas, personnellement, je m'y intéresse beaucoup. Elle permet de prouver l'authenticité des récits bibliques avec les preuves directes, comme celles que je vous ai montrées. Nous pouvons remonter jusqu'au 10e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à l'établissement de la dynastie de David. Au-delà, à ce jour, les preuves directes manquent. Mais il y a de nombreuses preuves indirectes qui permettent de remonter à la période des juges, à la période de l'Exode avec Moïse et Josué, et plus loin encore, la période des patriarches avec Abraham, Isaac, Jacob, et même jusqu'au déluge. La sagesse humaine nous permet donc aussi de faire écho auprès des personnes qui peut-être n'ont pas encore la foi pour leur permettre de regarder avec un regard, avec curiosité, ce qui se dit dans la Bible. Et je trouve cela vraiment passionnant de mettre à leur disposition toutes ces informations sur la Bible, sur l'historicité de la Bible et sur la façon dont elle est parvenue jusqu'à nous. Mais quoi qu'il en soit, je le disais tout à l'heure, la science, c'est la science et la foi, c'est la foi. Ce n'est pas parce que j'ai une démarche scientifique que j'aurai plus de foi. Ça ne marche pas. Je peux vous le garantir. Sans doute, plusieurs d'entre vous l'ont déjà expérimenté. Dans le verset que j'ai lu en introduction, c'est « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole, mais pas de la science. » On est bien d'accord. Néanmoins, la science a son intérêt. Mais c'est par la foi, basée sur ce que nous entendons, et surtout sur notre expérience de la puissance de Dieu dans nos vies, c'est cela qui nous permet d'avoir une foi qui grandit en Jésus. Et une fois qu'on a notre foi sur notre propre expérience, personne ne peut nous l'enlever. Alors c'est en écoutant sa parole, en nous appuyant sur ses promesses que nous lisons dans les Écritures, c'est en cela que notre foi en Jésus peut grandir. C'est vrai, moi je vous encourage à lire la Bible jour après jour, puisque c'est de cette façon-là que notre foi pourra grandir et qu'elle pourrait être ferme le jour de l'épreuve. Lorsque nous prions Jésus, augmente-nous la foi. Les disciples de Jésus ont exprimé cette prière à Jésus en disant « Mais Seigneur, augmente-nous la foi. » Et nous-mêmes, nous prions souvent cela. Mais Jésus va nous dire « Faites votre part, lisez la Bible, puisque c'est dans la Bible que votre foi grandira. » Donc, pour que notre foi augmente, nous avons notre part de responsabilité à faire. Dieu ne peut pas augmenter notre foi si nous ne lisons pas la Bible. Prenons donc notre part de responsabilité pour lire sa parole au quotidien. Et alors, ça, c'est une promesse, notre foi en Jésus grandira. À titre d'exemple, quand je me suis converti vers 16 ans, 17 ans, mon grand frère m'a dit qu'il avait lu le Nouveau Testament en un mois. Là, je suis presque tombé par terre. Je lui dis, mais en un mois ? J'étais tellement surpris que c'était possible que j'avais du mal à le croire. Mais comme il m'avait raconté cette histoire, je me suis dit, je vais essayer. Et j'avoue que j'ai été passionné par la lecture. Et j'ai lu tout le Nouveau Testament en une semaine. Franchement, c'était passionnant. Alors, j'avoue que je lisais dans la seconde 1910. C'était plutôt ardu comme traduction. surtout les épîtres de Paul, les phrases faisaient 15 à 20 versets, il n'y avait pas de point, donc on avait du mal à savoir où était le sujet, le verbe et le complément, mais néanmoins, c'était passionnant. Aujourd'hui, on a des Bibles modernes qui sont beaucoup plus faciles à lire, ça je vous le garantis. Et cette Bible, seconde 1910, c'était une Bible que j'avais reçue à l'école du dimanche quand j'avais 8-9 ans. Voilà, donc ça fait encore écho à l'événement de tout à l'heure. Un autre témoignage, c'est en famille. Ça arrive en famille, des fois on est bousculé, il y a un truc en retard pour telle raison. Ah bah aujourd'hui, bah tant pis, on n'a pas eu le temps, bah on fera demain. Le lendemain, il se passe autre chose et puis finalement, 2-3 jours, une semaine, parfois 2 semaines passent, on n'a pas ouvert la Bible, ça arrive. En tout cas, dans d'autres familles, ça arrive. Mais là, je peux vous le dire qu'après 2 semaines, si on n'a pas lu la Bible, les problèmes commencent à s'accumuler. Et ça commence à barder dans la maison, il n'y a plus la paix, il y a les disputes. Et là, on se rend compte que on a oublié de mettre au centre la parole de Dieu. Et on y revient. Et ça permet de repartir sur une nouvelle base. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous pardonne lorsque nous oublions un petit peu sa parole. Mais soyons sages. Si nous voulons vivre dans la paix, vivre avec cette paix dans le cœur, eh bien, ouvrons nos Bibles. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bonne lecture de la parole de Dieu, afin qu'elle puisse, que vous puissiez la mettre en pratique surtout, et que votre foi puisse en sortir grandie. Amen.